Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, je suis bien accompagnée dans ce studio par le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, à l'occasion de cette journée de la Terre organisée sur Europe 1 consacrée à l'environnement, nous avons décidé de vous éclairer aujourd'hui sur les conséquences notamment de la pollution sur notre santé respiratoire. Qu'elle soit dans l'air extérieur ou même chez nous, dans nos domiciles, elle est reconnue désormais comme un agresseur de notre souffle. Nous ferons un focus sur l'asthme et les allergies qui sont en augmentation, mais aussi sur les solutions, les conseils que nous pouvons tous appliquer au quotidien pour prendre soin de notre santé respiratoire. Pour parler de tout cela, nous recevrons le professeur Bruno Housset. Il est pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous allons nous intéresser à un accident domestique redoutable et on restera encore dans le souffle finalement, puisqu'on va vous expliquer quoi faire en cas de fausse route, si on avale de travers, si on s'étouffe, quels sont les gestes qui sauvent. Nous ferons le point. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses parents qui ont parfois du mal à accepter, voire qui rejettent carrément leur propre enfant en découvrant leur homosexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Arnaud. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Il y a deux jours, je me suis brûlé avec mon fer à repasser, donc au niveau de l'avant-bras. Bon, j'ai immédiatement mis sous l'eau froide pendant un petit quart d'heure et depuis, plus aucune douleur. Mais maintenant, je me demande en fait comment je vais pouvoir soigner au mieux la brûlure pour ne pas avoir de cicatrice. Donc voilà, j'ai besoin de votre aide.
Merci beaucoup Arnaud pour votre question. Alors pour vous répondre avec précision concernant ce petit accident qui finalement peut nous arriver à tous, on s'est tourné vers le docteur Marie Jourdan, dermatologue et membre de la Société française de dermatologie.
Une brûlure au fer à repasser, ça rigole pas. Un fer à repasser, c'est vraiment très chaud et même s'il est resté en contact très peu de temps avec la peau, je pense qu'Arnaud présente probablement une brûlure du deuxième degré, plus ou moins profonde. Il faut bien nettoyer avec un désinfectant non alcoolisé pour ne pas agresser la peau. Donc on nettoie, on désinfecte. Et contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas sécher, mais on va laisser cette cicatrisation avoir lieu dans un milieu humide. Donc on met de la crème cicatrisante, voire même on met des gaz grasses pour que ça reste en milieu humide. Et donc tout ce phénomène de cicatrisation va durer en moyenne une petite semaine. Si jamais vraiment il y a une ampoule tendue importante, on peut même se permettre de la percer. En revanche, on la perce, on laisse s'écouler le liquide translucide, mais on laisse le toit en place. Et si vraiment on a une cicatrice parce que la peau s'est mal réorganisée et on a une peau un peu flétrie, un peu peau de chagrin, à ce moment-là, on pourra utiliser des lasers pour atténuer nettement cette cicatrice.
Voilà, c'était des explications très claires du docteur Jourdan au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, à présent, on va prendre une seconde question, celle de Françoise qui nous a appelé depuis les Pyrénées-Atlantiques.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie, je vous téléphone, j'ai entendu l'autre jour sur l'antenne le docteur Jimmy Mohamed dire qu'on pouvait avoir un risque d'avoir Alzheimer quand on avait de l'hypertension la nuit. Mais en fait je comprends pas comment on fait du coup pour savoir si on a de l'hypertension la nuit, il faut courir chez son médecin et se réveiller la nuit, ou alors peut-être s'acheter un appareil. Vous pourriez me dire où je peux trouver cet appareil ?
Alors Jimmy, on va préciser d'abord cette histoire de pression artérielle nocturne associée peut-être donc à un risque d'Alzheimer. Mais peut-être rappelez-nous d'abord, c'est bien ça hein, le problème de l'hypertension, c'est que c'est une maladie finalement qui est sournoise et en journée, comme la nuit d'ailleurs, on ne sent rien en fait.
Exactement, sournoise car c'est un tueur silencieux. Vous pouvez avoir de l'hypertension artérielle sans jamais le savoir, 15, 16, 17 de tension. Sauf que malheureusement, cette tension c'est un reflet de la pression qui va circuler dans les vaisseaux et dans tous les vaisseaux sanguins du corps. Et on le sait, quand vous avez de l'hypertension artérielle, vous êtes à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et notamment, l'hypertension, c'est la principale cause évitable d'accidents vasculaires cérébraux. Mais indépendamment de ça, sur le long terme, vous allez abîmer les petits vaisseaux qui vont se trouver dans le cerveau. Et ça va être propice notamment à la démence, à la maladie d'Alzheimer. Donc une hypertension, c'est pas sexy, c'est pas incroyable. Et pourtant, c'est un véritable enjeu de santé publique.
Très bien. Alors concrètement, la raison, Françoise, on se demande, vous nous dites, bon, la nuit, si elle est élevée, il y a le risque plus important. Mais bon, on fait quoi ? On dort la nuit ou est-ce qu'il faut aller dormir chez son généraliste éventuellement pour qu'il nous prenne la tension en dormant ?
Ce dont on s'est aperçu, c'est que dans une étude, on a suivi des patients de plus de 50 ans, tous les 10 ans jusqu'à 90 ans. D'une façon normale, la nuit, lorsque vous dormez, vous avez une tension artérielle qui varie de 10 à 20% et ça sert à s'adapter à l'organisme et donc on a besoin physiologiquement d'avoir une tension plus basse. On s'est rendu compte dans
cette
étude,
ça baisse la nuit, d'accord.
On s'est rendu compte dans cette étude que les patients qui avaient une hypertension artérielle, en particulier la nuit, eh bien avaient plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer que les autres. Comment faire pour éviter d'avoir cette hypertension artérielle la nuit? Tout d'abord, un, il faut traiter une hypertension artérielle en journée. Deux, il faut traiter un diabète. Et trois, arrêter de fumer, puisqu'on s'est rendu compte que c'était des facteurs de risque d'hypertension artérielle nocturne.
Et alors, comment on fait pour contrôler sa tension le jour ou la nuit? On achète un appareil, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ça coûte une vingtaine d'euros.
Ah, tout, d'accord.
Oui, on a des téléphones à 1000 euros qui ne servent à rien, alors qu'un tensiomètre à 20 ou 25 euros...
Qu'on peut partager d'ailleurs pour toute la famille.
On peut partager en famille. Ça nous évite d'aller chez le pharmacien. Il a autre chose à faire, le pharmacien, que de prendre votre tension, même si évidemment, il le fait quand il est de bonne humeur et qu'il est disposé à le faire, parce que souvent, il y a du monde. Et puis, vous avez attendu chez le pharmacien, vous êtes énervé, donc la tension n'est pas la vraie tension artérielle.
Et on est capable de le prendre tout seul, hein, c'est
oui,
pas si compliqué.
Vous faites ça matin et soir pendant 3 jours, 3 fois à chaque fois, vous notez sur un petit papier et direction votre médecin généraliste.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour qui s'inscrit donc parfaitement dans cette journée spéciale sur Europe 1, cette journée de la Terre. C'est vous notre invité pour cette journée de la Terre, professeur Bruno Housset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumologue et le président de la Fondation du Souffle. Alors on va reprendre du début, puisqu'on a dit qu'on parlait des maladies respiratoires et donc on va parler surtout de l'asthme pour le moment. En fait c'est quoi l'asthme? C'est quoi la différence entre les poumons finalement de quelqu'un qui est sain et de quelqu'un qui a cette pathologie qui est asthmatique?
C'est une question simple dont les réponses sont les plus compliquées, vous savez ça. Donc l'asthme, en fait, c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires, c'est une maladie chronique qui se traduit pour ceux qui en souffrent par des essoufflements avec des sifflements intrathoraciques. Pourquoi ça siffle? Parce qu'il y a une inflammation qui va provoquer une obstruction, ça va boucher les bronches par 3 mécanismes. Un mécanisme où il va y avoir une augmentation des sécrétions, les asthmatiques peuvent cracher, c'est difficile de cracher. Il va y avoir un édème de la muqueuse bronchique. Et puis il y aura une constriction des muscles lisses, des muscles qui entourent les bronches et qui vont réduire le calibre. Et c'est pour ça que ça siffle.
Quelle est la fréquence de cette maladie en France?
C'est très fréquent. Et évidemment, ça change en fonction de l'âge. C'est entre 10 à 16% de la population.
On a l'impression qu'on connaît tous quelqu'un d'asthmatique dans
notre entourage. Absolument. 10-16%, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'un sur 10, un peu plus d'un sur 10. Un Français sur 10.
Dans l'imaginaire collectif, puisque je vous disais, on connaît tous quelqu'un qui est asthmatique ou un enfant ou un proche, on a l'impression que l'asthme, finalement, ce n'est pas si grave. Ça se traite. Les gens, ils prennent des médicaments. Mais attention, il faut quand même rappeler qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens que ça peut carrément conduire à l'hôpital, voire pire.
Voire pire, comme vous dites. Il y a encore des gens qui malheureusement meurent d'asthme en 2021. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue. Et c'est beaucoup d'enfants en fait. Les chiffres disaient 30 enfants par an, essentiellement moins de 10 ans. Donc c'est vraiment une maladie dont il faut se méfier. C'est quelque chose d'important. C'est beaucoup d'hospitalisations. C'est plus de 60 000 hospitalisations par an. Beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés. L'hospitalisation chez les adultes a diminué au cours de ces dernières années, mais ça a augmenté chez l'enfant. Et donc, c'est 200 000 passages aux urgences par an.
Wow. Et justement, vu que vous parlez des enfants, est-ce que c'est une maladie qui débute dans l'enfance principalement, ou on peut être asthmatique à 40 ou 50 ans?
On peut être asthmatique à 40 et 50 ans. Le plus souvent, c'est effectivement une maladie allergique qui débute dans l'enfance, mais on peut avoir une maladie qui apparaît à l'âge adulte, en particulier chez la femme d'âge moyen, qui peut avoir se développer un asthme qui n'est pas toujours de nature allergique. Et puis aussi, il y a un asthme particulier chez les sujets obèses.
Est-ce que c'est une maladie chronique qu'on sait guérir? Parce que vous dites effectivement qu'il y a autant de temps d'hospitalisation, encore plusieurs centaines de milliers par an. Mais est-ce qu'on a trouvé un médicament pour guérir certains patients peut-être?
Alors déjà, ça change un peu quand vous dites certains patients, mais c'est surtout on sait mieux traiter l'asthme. On a fait des progrès dans le traitement de l'asthme. On a des médicaments qui sont à disposition depuis déjà plusieurs années.
Tout le monde connaît la Ventoline, voilà. Pas esprit là.
Mais il faut surtout, je parlais d'inflammation, donc le traitement, la révolution, la vraie révolution, c'était les corticoïdes inhalés. Et donc c'est vraiment comment utiliser ces médicaments. Donc il y a toute une stratégie qui est développée pour ça. Et puis il y a les nouveaux traitements, ce qu'on appelle les biothérapies, qui peuvent changer radicalement la vie des patients.
Et du coup, comment est-ce que l'asthme peut évoluer? Est-ce que quand on est enfant, on reste asthmatique toute sa vie? Est-ce qu'à l'âge adulte, ça peut s'améliorer? Parce que parfois, on voit
des patients... Moi, je l'ai été, mais ça a disparu à l'adolescence.
Ça a disparu. Et parfois, est-ce qu'à l'occasion d'un petit rhume, on peut refaire une crise d'asthme, par exemple?
Absolument. Donc, c'est effectivement... On dit que c'est la vie hormonale qui peut rythmer, en fait, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à la puberté, ça peut disparaître. Lors de la grossesse, ça peut réapparaître. Ou bien s'améliorer, et puis au moment de la ménopause également. Donc on sait que ça peut être rythmé comme ça.
Il peut y avoir des variations.
Des variations au cours de la vie. Et effectivement, on reste quand même plus sensible que les autres aux infections, par exemple.
Est-ce qu'on sait pourquoi telle ou telle personne va devenir asthmatique? Quelles sont les causes principales, on va dire, en gros, pour l'instant, pour expliquer l'apparition de cette maladie?
Alors, je vais vous répondre que c'est en fait l'interaction entre le matériel génétique et l'environnement. Ouais. Donc, si vous avez un matériel génétique qui peut vous prédisposer à ça, mais que vous n'avez pas une agression extérieure, vous pouvez très bien ignorer complètement la maladie asthmatique pendant toute votre vie. Le point, c'est qu'au début de la vie, alors, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. C'est-à-dire que si au tout début de la vie, dans les premiers mois de vie, sur une fenêtre assez courte, on est exposé aux animaux, à des dérivés de bactéries, etc., on peut avoir moins de chances, moins de risques de développer un asthme que les autres.
On met les bébés dans des endroits très sales et plein de poils et pas asthmatique.
Non, je dirais qu'il faut être propre, mais pas trop.
Mais pas trop, d'accord.
Est-ce qu'il y a un lien entre justement des allergies respiratoires classiques et de l'asthme?
Alors, entre les allergies respiratoires classiques, c'est les gens qui font des rhinites allergiques, par exemple, ou qui font ce qu'on appelle le rhume des foins. Donc, ça, il y a une relation, c'est-à-dire que des gens qui font une rhinite allergique ont plus de chances de faire de l'asthme. Mais vous pouvez faire une rhinite allergique sans asthme. Et puis, vous faire de l'asthme sans rhinite, ce qui est aussi moins fréquent. Mais on sait que la présence d'une rhinite est un facteur, mauvais pronostic, qui est associé à plus grande fréquence d'exacerbation de l'asthme.
Est-ce qu'il y a plus d'asthmatiques ou d'asthmatiques et allergiques aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple, puisqu'on va en parler, on va détailler ça après, mais on sait que l'environnement, la pollution, c'est des choses qui aggravent les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a plus?
Des asthmatiques, ça a augmenté. Il semble que ce soit en plateau actuellement, donc il n'y a pas d'augmentation. Par contre, de l'allergie, on va en reparler, mais c'est en train effectivement d'augmenter de façon importante.
Et justement, pourquoi est-ce qu'on devient allergique tout d'un coup, puisqu'il y a de plus en plus d'allergiques, on a des facteurs de risque identifiés, à part cette histoire de fenêtre où on est dans une théorie hygiéniste? Est-ce que le fait d'avoir des parents allergiques, ça nous rend plus allergiques?
Ah oui, donc le fait d'avoir des parents allergiques, effectivement, une histoire maternelle ou paternelle d'allergie favorise en fait le développement d'asthme ou d'allergie. Et puis on sait aussi que la pollution peut favoriser le développement. C'est pas, encore une fois, on va en rediscuter, mais la pollution peut aggraver un asthme préexistant, mais aussi elle pourrait déclencher un asthme, on pourra en discuter.
C'est quoi le poids des allergies en France? Je veux dire, il y a combien de patients, alors toutes allergies confondues
ça augmente progressivement, donc actuellement on est autour de 20-30%.
C'est énorme.
Les gens disent qu'en 2050, ça serait autour de 50%.
Et pour le coup, lorsqu'on parle d'allergie, vous l'avez dit, c'est en pleine explosion. Aujourd'hui, Europe 1 organise une journée de la Terre. Est-ce que clairement, on peut dire que la planète, enfin plutôt ce qu'on en a fait avec l'augmentation de la pollution, ça joue un rôle véritablement majeur dans l'asthme et l'allergie?
Il y a plusieurs aspects dans votre question. La première, c'est qu'effectivement, on a production de CO2 qui, de façon importante, qui aboutit du fait de la consommation d'énergie. Alors ça, on pourrait en discuter pendant des heures, mais la consommation d'énergie provoque la production de CO2 qui va être à l'origine d'un gaz, enfin c'est un gaz à effet de serre, qui va être à l'origine d'un dérèglement climatique avec un réchauffement, en fait. Et ce réchauffement, on sait que c'est associé à une augmentation de la pousse de plantes qui sont allergisantes. C'est le cas en particulier de l'ambroisie, qui initialement était confinée dans la région méditerranéenne et qui remonte progressivement le long du Rhône et qui s'étend en France du fait du réchauffement climatique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les particules de pollution peuvent éventuellement véhiculer des pollens et donc faire rentrer aussi des pollens dans l'arbre respiratoire.
Très bien. Professeur Housset, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Et notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Bruno Housset. Je rappelle que vous êtes pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Alors, cet après-midi, dans le cadre de cette journée de la Terre sur Europe 1, on s'intéresse à notre environnement qui est devenu clairement un agresseur de notre souffle et peut-être même aggrave l'asthme et les allergies. Alors, pour bien comprendre, si on prend la pollution, par exemple, qu'on soit asthmatique à l'origine ou bien portant, elle agit comment sur nos voies respiratoires? On peut tous en avoir des conséquences?
On peut tous en avoir des conséquences. Il faut savoir que, j'aime bien deux chiffres, c'est le nombre de litres d'air qu'on va ventiler par jour, c'est 15 000. Je veux dire, 15 000, c'est beaucoup, mais en fait, ça représente 17 kilos.
Ah ouais.
17 kilos d'air. Donc ça vous donne une idée par rapport à ce qu'on mange, qu'on boit dans la journée. C'est énorme. Et ça véhicule toutes les substances qui sont contenues dans l'air. Et en fait, c'est une soupe de polluants. Le deuxième chiffre, c'est 100 mètres carrés, c'est en fait la surface alvéolaire. Donc si on déplie toutes vos alvéoles, c'est 100 mètres carrés, un beau court de tennis. Le problème, c'est que ça se paye par la fragilité en fait, de cette structure. Et quand vous inhalez des polluants, ils vont agresser la muqueuse respiratoire. Ils vont éventuellement passer dans le sang. Pour les plus petites molécules et les nanoparticules, en particulier celles qui sont moins de 100 nanomètres, donc toutes petites, elles peuvent passer dans le sang et elles peuvent circuler, rester dans l'organisme et avoir un effet. Il faut savoir que la pollution tue et les trois quarts de ces décès sont d'origine cardiovasculaire. Donc c'est plutôt parce que ça passe dans le sang et ça peut aller se localiser sur des plaques d'athérome. Il y a un très joli travail qui démontre ça.
Et du coup, on a compris que la pollution va avoir de véritables conséquences respiratoires ou même cardiaques. Ouais. Est-ce qu'il y a des populations qui vont être un peu plus fragiles, justement, et qui est un peu plus exposée à la pollution?
La réponse est clairement oui. Il y a les enfants sont plus exposés à un poumon en développement et plus sensibles à la pollution. C'est vrai également pour le fœtus. Et donc, ça veut dire que les femmes enceintes... Alors on
le poumon du fœtus dans le ventre va être plus agressé par la pollution.
Enfin, ouais. Le fœtus va être agressé par la pollution. Ça peut donner, on sait que ça peut donner des petits poids de naissance. Le petit poids de naissance est associé, c'est un facteur de risque de développer de l'asthme ou une maladie respiratoire.
Donc, attention pour les femmes enceintes. Quoi, en tout cas,
attention pour les femmes enceintes. Et puis, il y a les sujets âgés. On sait que le vieillissement est associé aussi à des phénomènes inflammatoires dans le poumon. Et donc, si on y rajoute la pollution, c'est un élément qui va aggraver les choses. Et puis, enfin, tous ceux qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, les asthmatiques, ceux qui souffrent d'une BPCO, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, ou ceux qui souffrent d'une fibrose pulmonaire, par exemple.
Je vais donner un exemple pour montrer l'impact très fort de ce coupable, donc l'environnement sur notre santé respiratoire. La justice anglaise a reconnu coupable la pollution de l'air de la mort d'une fillette récemment.
Alors, c'est une histoire dramatique, effectivement. C'est une fillette de 9 ans qui est morte en 2013. En fait, je n'ai pas la certitude qu'il y ait un jugement qui a été rendu. Ce qui a été fait, c'est que le médecin légiste... c'était en novembre, je crois, l'année dernière, a dit que la pollution avait contribué en fait, au décès de cette fillette. Donc c'est quelque chose qui reconnaît en fait, la pollution comme un facteur de risque. Il faut savoir qu'elle habitait à moins de 50 mètres de notre route, enfin d'une voie à grande circulation comme le périphérique, et que donc il y avait un des pontes anglais sur l'asthme, Stephen Holgate, qui a dit qu'il y avait vraiment une relation entre l'exposition aux dérivés de l'azote, aux dérivés oxygènes de l'azote, et puis les hospitalisations. Elle a été hospitalisée 30 fois, une trentaine de fois sur 3 ans. Donc,
et du coup, quand on parle de pollution, est-ce qu'on parle d'une pollution permanente, longue, donc on va dire avec une exposition chronique, hein, comme la fumée du tabac, ou est-ce que lors des pics de pollution, on peut aussi faire des événements?
Les deux, j'allais dire les deux. Le point, c'est qu'il a été bien montré, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur Paris par les urgentistes pédiatriques et qui ont montré que, en fait, les consultations aux urgences pour asthme étaient très liées en fait, au PM2.5, à la concentration en particules de moins de 2,5 microns de diamètre. Donc, quand il y a un pic, on sait qu'il va y avoir une augmentation de consultations aux urgences. Et par ailleurs, la pollution de fond, c'est celle-là qui va être à l'origine de maladies chroniques et qui peut éventuellement... être aussi à l'origine de cancers du poumon. On sait que c'est un cancérigène.
Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. La pollution aggrave aussi les allergies. Comment ça fonctionne si on est allergique? En ce moment, on est en pleine saison des pollens, par exemple, pour ceux qui en souffrent. En quoi ça va être plus grave si on est allergique au pollen, si on vit dans une ville très polluée, par exemple?
Il y a deux phénomènes. D'une part, la pollution va agresser votre muqueuse respiratoire et provoquer une inflammation, donc va favoriser
chronique,
l'inflammation.
Hein, ouais.
Et puis d'autre part, elle peut véhiculer les pollens au sein du poumon, dans l'arbre bronchique. Oui.
Est-ce qu'on peut imaginer un lien, ou peut-être qu'il ne s'est pas encore décrit, entre des gravités ou une fréquence du coronavirus et des pics de pollution? Est-ce que c'est des choses qui ont pu être établies?
Alors, deux choses. D'une part, on sait que les pics de pollution sont associés à des infections respiratoires. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, notamment avec le virus respiratoire syncytial. Et donc, c'est le virus qui donne les bronchiolites. Et ça peut survenir jusqu'à 3 à 4 semaines après le pic. Vous voyez que c'est compliqué à identifier, même d'un point de vue épidémiologique. Et puis, il y a la pollution chronique. Et ce qui est intéressant sur le Covid, c'est qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où ils ont regardé le risque de décéder de Covid et puis les 17 années précédentes, 17 ans d'exposition aux dérivés oxygénés de l'azote. Et il y a un lien entre les deux. Et donc, il y a un lien entre le pic de pollution avec une altération peut-être des défenses immunitaires, des défenses du poumon, et puis la survenue d'infection, et puis au fait la pollution chronique, qui est probablement l'élément le plus important dans la survenue de pathologie chronique, de maladie chronique.
Je reste sur le Covid, je crois qu'il y a même des travaux qui ont regardé ce qui s'était passé en Chine par rapport à la pollution, Covid sévère, et en Lombardie, en Italie, je crois.
En Lombardie, aux États-Unis, enfin, il y a beaucoup de pays qui font cette relation, et le premier épisode de SARS en 2003 en Chine, les Chinois avaient montré déjà qu'il y avait un lien entre pollution et mortalité.
Et justement,
lié à ça.
Vous avez dit tout à l'heure que les particules fines vont être une forme de véhicule du pollen. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit aussi un véhicule de certains virus comme le coronavirus?
Absolument. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui montrent qu'on peut retrouver de l'ARN du virus sur des particules. Alors après, il faut savoir si c'est infectieux ou pas. Mais on a trouvé ça. Donc de là à dire que ça peut véhiculer, disséminer en fait l'épidémie, c'est une discussion. On sait que ça peut former des aérosols. C'est-à-dire qu'il y a eu une histoire d'une chorale aux États-Unis où en fait ils ont enlevé leur masque pour chanter et puis il y a eu plusieurs cas en fait de coronavirus.
Puisqu'on parle de l'environnement aujourd'hui, est-ce qu'on imagine si on imagine qu'on arrivait à baisser de manière importante les niveaux de pollution, vous pensez qu'on pourrait éventuellement lutter contre d'éventuelles nouvelles pandémies ?
Ça contribuerait sûrement à réduire en fait probablement les infections. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui a été publié fin mars en Angleterre. En fait, c'était des études qui ont été menées au Pays de Galles et puis en Écosse, où ils ont montré qu'il y avait une diminution de 36%, ce qui est considérable, 36% des consultations aux urgences pour asthme. Mmh. Et donc, les explications, en fait, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que les gestes barrières vous préviennent également des infections respiratoires autres que le coronavirus. Et donc, il y a d'autres virus qui viennent avant même le coronavirus pour provoquer des problèmes d'asthme. Et donc, peut-être que les mesures barrières réduisent. Les gens n'ont peut-être pas envie d'aller à l'hôpital, mais les signes de l'asthme, vous toussez, vous n'êtes pas bien, donc ça vous fait supposer qu'éventuellement, vous pouvez avoir une infection au coronavirus et donc vous allez plutôt à l'hôpital. Et puis, le fait que la pollution soit réduite. Alors, ouais. La pollution, surtout par le NO2, hein, ça a été bien montré. Et pour les particules, c'est un petit peu plus discuté.
Très bien. Professeur Rousset, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, professeur Bruno Housset. Je rappelle que vous êtes pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Alors professeur, on a vu que l'asthme et les allergies sont finalement des maladies environnementales, on peut dire ça aujourd'hui, qui peuvent être aggravées par la pollution de l'air extérieur. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça peut être aussi le cas par la pollution finalement intérieure qu'on peut tous avoir chez soi. Ça veut dire que chez nous, c'est pollué, on peut mesurer ça ?
Alors, chez nous, c'est pollué. Et en plus, on passe plus de 80% de son temps dans des locaux. Donc, il faut effectivement faire attention à quoi on est exposé, surtout quand on a une maladie respiratoire chronique. Et donc, on peut mesurer. Il y a plein de choses qui sont commercialisées maintenant. Donc, il faut faire attention à ce qu'on achète, parce qu'il faut que ça soit fiable. Mais qui peut vous mesurer les composés organiques volatiles, qui sont les substances qui vont agresser la muqueuse respiratoire dans l'air et qui peut vous mesurer d'autres polluants.
Est-ce qu'on peut aussi apparemment faire venir des professionnels qui vont venir mesurer la qualité de l'air intérieur ? C'est-à-dire que c'est un vrai métier et on imagine que ça peut aider notamment des patients asthmatiques, sévères, mal équilibrés ou qui sont très allergiques ?
Oui, il y a des conseillers médicaux à l'environnement intérieur. Donc je vous renvoie, il y a un site internet qui détaille très très bien en fait cette activité. Et donc ça peut être sur prescription, on peut demander à un conseiller médical d'aller au domicile du patient et de voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on n'arrive pas ou qu'on a des difficultés à traiter son asthme.
Il va aller quoi ? Regarder par exemple l'état de mon matelas, mesurer s'il y a des acariens dedans par exemple, c'est ça concrètement ?
Il va
et
voir
donner
comment,
des conseils derrière ?
Oui, ouais. Comment le local est ventilé par exemple. Vous savez que dans les locaux normalement on a une ventilation mécanique contrôlée et qui vous permet d'aérer, d'éliminer l'humidité qu'il y a dans vos pièces d'eau.
Alors, s'il n'y a pas trop de moisissures chez moi ?
Oui, il y a des gens qui bouchent par exemple ce type d'aération.
Les VMC, tout ça,
oui. Oui, il ne faut pas faire. Il va vérifier que vous n'avez pas des plantes qui peuvent éventuellement être à l'origine de moisissures.
C'est une manière de faire un bon bilan, quoi.
Voilà,
en tout cas,
il fait complètement le bilan, il fait des mesures aussi.
Et ça a un coût, je suppose, pour le patient. Est-ce que derrière, on a observé des améliorations ? Est-ce que derrière, les patients allergiques font un peu moins d'allergies ou un peu moins de crises d'asthme ? Ou pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul ?
Ce qui a été publié, je ne suis pas sûr qu'on ait publié un effet démontré, mais c'est clair que ça améliore les patients quand on leur envoie et qu'on identifie des sources possibles de pollen, parce qu'on a des solutions à proposer. Combien ça coûte, ça dépend. Ça peut être gratuit. Si les conseillers médicaux en environnement intérieur sont rattachés à une structure publique, à un hôpital, à un ARS, une mutuelle, etc., c'est gratuit. Par contre, s'ils ne sont pas rattachés, c'est payant. Et ça peut aller de 150 à 300 euros, quelque chose comme ça.
Vu qu'on parle des asthmatiques, est-ce que vous avez quelques conseils pour diminuer notamment la pollution intérieure, celle qu'on peut trouver à la maison ?
Alors, d'abord, il faut identifier les sources de polluants. Donc, on a parlé du conseiller médical en environnement intérieur. Et lui va pouvoir dire, il faut faire attention, il faut aérer votre local, pas de plantes, pas d'aquarium. Enfin...
Quand on est asthmatique, c'est mieux de ne pas avoir trop de plantes chez soi ?
Il y a des plantes qui peuvent être même allergisantes.
Ah bon, lesquelles, par exemple ?
Le ficus.
Ah oui, tout le monde a des ficus. Enfin, c'est hyper courant, quoi.
Je ne sais pas si tout le monde.
Mais... c'est un truc courant, le ficus.
Il faut savoir qu'on peut être allergique.
Non, mais je dis ça parce que j'ai deux ficus chez moi, mais bon.
Oui, j'ai les gommettes, j'ai un ficus. Mais est-ce qu'il y a d'autres polluants insoupçonnés ? Je ne sais pas, l'encens, par exemple ? Est-ce que si on est asthmatique ?
Toutes les substances que vous pouvez utiliser chez vous, les parfums d'intérieur, l'encens,
les bougies.
Les bougies, tout ça.
C'est jamais chez un asthmatique.
Pourquoi vous sentez ça ? C'est parce qu'en fait, il y a des particules. Et que ces particules vont aussi avoir un effet pro-inflammatoire. Tout ce qui est les huiles essentielles, il faut éviter.
Donc on jette tout ça et on ne parfume pas son intérieur. Le mieux, c'est d'ouvrir la fenêtre. Et combien... C'est quoi les bonnes règles ?
Grosso modo, c'est un quart d'heure, une demi-heure par jour. C'est ça qui est recommandé. Si possible, en dehors des heures de pollution. Donc ça, vous avez des applications maintenant qui vous donnent le niveau de pollution.
Ah oui, en fonction de là où vous vivez, en plus.
Oui, absolument. Et puis l'autre élément aussi chez soi, c'est de ne pas utiliser de spray. Et donc,
dans les produits ménagers, il y en a beaucoup.
Exactement. Oui. Et donc ça, c'est un élément important.
Que pensez-vous des purificateurs d'air qu'on peut voir un peu fleurir ces derniers temps sur des publicités? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on peut s'en équiper?
Parce que ça coûte cher,
ça
en
coûte
plus.
Un certain, ouais.
Ça coûte 500-600 euros,
ouais,
un truc comme ça.
C'est un investissement quand même. Ouais.
Effectivement, c'est une bonne question. Depuis longtemps, j'essaie de promouvoir la recherche. La Fondation du Souffle promeut la recherche. Et donc, j'aimerais bien qu'on fasse
des études
là-dessus. Il y a des études qui sont sorties quand même et qui montrent que les épurateurs d'air diminuent la concentration en particules fines, en particules de moins de 2,5 microns. Et donc, on peut penser que ça a un effet éventuellement sur la... Mais ça n'a pas été vraiment démontré. Et donc, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à montrer chez des gens qui ont un asthme. Il y a des travaux qui ont été faits avec la VMC.
Et alors ?
Qui ont été faits au Canada. Parce qu'au Canada, quand l'hiver, vous avez besoin d'avoir une VMC qui vous récupère la chaleur et l'énergie. Et donc, ils ont montré qu'effectivement, quand on avait une VMC moderne, on diminuait les signes d'asthme.
Une VMC moderne et bien entretenue. Alors,
absolument.
Ça y est, on est en pleine saison des allergies. Les pollens sont partout. Est-ce que vous avez 2-3 conseils pour limiter les symptômes pour les allergies qui nous écoutent ? Je veux dire, chez eux, là aussi, parce que vous dites, bon, il faut ouvrir grand chez soi, mais quand il y a les pollens, on a peur qu'ils rentrent. Donc,
Quand il y a les pollens et qu'il y a du vent, il ne faut pas ouvrir la fenêtre. Et puis, chez soi, par contre, il faut aérer. Et si on aère, c'est plutôt avant et après le lever du soleil, parce que c'est pendant qu'il fait jour que les pollens circulent. Et puis, il faut se laver les cheveux le soir. Ça, c'est un conseil,
pourquoi,
de façon à éliminer les pollens que vous avez dans les
cheveux.
Sinon,
on les met sur l'oreiller.
Sinon, vous dormez avec le nez dedans, donc ce n'est pas une bonne idée. Donc, se laver les cheveux le soir. Ne pas étendre son linge à l'extérieur pour le faire sécher, parce qu'à ce moment-là, ça va collecter tous les pollens. Enfin, des choses comme ça.
Oui, mais c'est des bons conseils, en tout cas.
Et si les symptômes persistent, du coup, souvent, les patients prennent des antihistaminiques. Est-ce qu'ils peuvent en récupérer à la pharmacie sans ordonnance? Car certains doutent de l'efficacité de ces antihistaminiques qui sont libre accès et qui, pourtant, je crois que ne sont pas trop mal.
Bon, c'est pas si mal. En fait, il faut voir un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup de molécules disponibles. Et donc il faut,
on peut en essayer plusieurs, d'ailleurs, si l'une ne marche pas.
Pas en même temps, mais l'une après l'autre, oui.
Et ça vaut le coup, je dis parfois on tâtonne un peu, mais on va trouver celui qui nous convient,
oui,
c'est ça?
Et d'ailleurs, quand on est allergique et qu'on prend un antihistaminique, l'effet, il n'est pas on-off. Ce n'est pas comme lorsque vous prenez du Doliprane, il faut un certain temps. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il faut être régulier et observant, un peu comme dans le traitement.
Ce qu'on peut faire, c'est prescrire des antihistaminiques sur la période pollinique. C'est-à-dire, on dit aux gens, vous prenez ça pour être moins gêné au cours de la période pollinique. Ça ne va pas être le remède miracle, mais ça peut aider.
Alors, à la Fondation du Souffle, justement, pour que chacun puisse évaluer son mode de vie et son impact sur sa santé respiratoire, vous avez mis en place un outil en ligne, c'est le Soufflotest. Qu'est-ce que c'est ?
Vous avez essayé ? Est-ce que vous avez essayé ?
Non, en tout cas.
Ça, je pense que c'est intéressant à faire, parce qu'effectivement, en 5 minutes, on balaye en fait tout ce qui peut vous affecter en termes de pathologie respiratoire.
Qu'est-ce que vous me posez comme question, par exemple ?
Quels sont les moyens de déplacement, par exemple ? Est-ce que vous faites du sport ? Combien de fois, etc. Et donc, ça vous donne un profil, et on peut avoir la possibilité d'aller plus loin en donnant son adresse mail. On peut vous donner plus d'informations sur les sujets ciblés qui peuvent vous intéresser. Donc ça fait partie des éléments que la Fondation du Souffle met à disposition. Et puis, on a décliné cette année un souffle-test particulier pour l'asthme. Et puis, on fait aussi, nouveau, c'est une rencontre de la Fondation du Souffle qui a lieu au moment des campagnes. Et donc, le 4 mai, on a une réunion, un webinaire sur l'asthme.
Donc, en 5 minutes, on a compris avec ce Soufflotest, on peut évaluer sa santé respiratoire. Et donc, je précise, comme vous venez de le dire, hein, que tout le mois de mai, il y aura un module spécifique sur l'asthme qui sera en ligne. Alors, la Fondation du Souffle, on est dessus justement, on en profite. Son rôle, c'est aussi de financer des projets de recherche. Je signale d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient faire un don, ça se passe sur www.lesouffle.org. De quel ordre sont les projets de recherche que vous financez ? C'est quoi aujourd'hui d'ailleurs les principaux enjeux de la recherche finalement dans l'asthme, par exemple ?
Vous m'avez posé des questions auxquelles je n'avais pas toujours la réponse, vous avez vu. Donc ça, c'est les questions effectivement de recherche sur lesquelles on doit travailler. Et donc, il y a des questions sur la biologie de l'asthme. Comment sont efficaces les nouveaux médicaments ? Sur l'épidémiologie de l'asthme, est-ce que ça augmente, ça diminue ? Et puis, il y a l'évaluation de l'organisation des soins. C'est aussi important. On n'a pas évoqué la consultation post-urgence, mais c'est un élément extrêmement important qui a été évalué. Et ce genre de mise en place de réseau, de prise en charge, d'accès aux soins des asthmatiques, qui est un point très important, on n'en a pas évoqué, mais il y a une inégalité d'accès aux soins qui est importante, ça il faut le juger. Et puis l'évaluation, c'est aussi l'efficacité, par exemple, au hasard des épurateurs d'air.
Alors c'est vrai que quand on parle d'asthme, on pense souvent à des médicaments, mais est-ce qu'il y aurait des techniques non médicamenteuses comme le sport ? Est-ce que faire une activité physique régulière, eh bien ça permet d'avoir un asthme mieux équilibré que les autres ? Est-ce qu'on peut justement jouer sur ça sans prendre des médicaments ? En prenant vos médicaments,
bien sûr.
C'est une association avec les deux. Un des points, c'est que l'asthme est souvent associé, en particulier les asthmes sévères, à un syndrome d'hyperventilation. Donc des gens qui respirent de façon qui n'est pas adéquate, qui respire trop avec le thorax et pas suffisamment avec l'abdomen. Et ça, le traitement, c'est le contrôle de sa respiration, c'est éventuellement du yoga ou de la gymnastique où on va contrôler sa respiration ou le recours à un kinésithérapeute.
Et on peut imaginer du coup que lorsqu'il y a des pics de pollution, asthmatique ou pas, on devrait éviter de faire du sport. Est-ce que ça veut dire qu'on doit, nous checker, même si on n'est pas asthmatique, la qualité de l'air?
Avant d'aller faire un jogging, bon, Jimmy, ça ne risque pas de vous arriver, vous vous flaquez bien. Lui, il s'abstient complètement, comme ça, pas de risque pour ses poumons.
Non, la réponse, c'est clairement oui. C'est qu'il faut, éviter de faire du sport lors d'un pic de pollution. Il y a un moment donné, on évoquait la possibilité de faire une piste de jogging le long du périphérique. Ça, c'est pas
vous, pneumologue, ça doit vous faire bondir, j'imagine.
Oui, oui, j'étouffe dans ces cas-là. Oui.
Même pour les enfants, c'est-à-dire que des enfants qui sont pas asthmatiques, est-ce qu'on se dit, s'il y a un pic de pollution, on évite de les amener à ce moment-là au parc? Est-ce qu'on risque quelque chose? Parce que vous avez dit, c'est une maladie chronique, la pollution.
Alors, l'autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en fait, c'est très hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites à Londres qui sont très très belles. On a fait marcher des gens soit dans Hyde Park, donc c'est un parc
tout vert,
il n'y a pas ou pratiquement pas de pollution, ou bien dans Oxford Street, qui est une rue marchande, il y a beaucoup de taxis, de bus et donc beaucoup de diesel. Et donc il y a une différence. Hein. Et donc il ne faut pas aller dans les endroits où on sait que ça va être particulièrement pollué. Il y a d'autres endroits. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent en place des capteurs hein, qui vous permettent de savoir si vous êtes en zone polluée ou non polluée. Avec toujours des discussions sur la fiabilité de ce type d'engin. Mais ça vous donne une idée quand même de la relativité entre une zone qui est très polluée et une autre qui ne l'est pas. Et donc, il faut éviter de faire du sport quand il y a une pic de pollution, en sachant que, de façon chronique, il vaut mieux faire du sport. Vous gagnez en espérance de vie beaucoup plus que ce que vous perdez en espérance de vie du fait de la pollution.
Merci beaucoup, professeur Housset, d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle, hein, sur l'asthme, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à vous, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Donc, si vous souhaitez aider la recherche, n'hésitez pas. Hein, c'est don donc sur www.lesouffle.org. Merci, professeur Housset. On a compris donc l'impact de l'environnement sur notre souffle, que ce soit asthmatique d'ailleurs ou pas. Faisons attention, soyons vigilants. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. Et à présent, on va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Je dirais même mieux les accidents du quotidien. Savez-vous ce qu'il faut faire si quelqu'un en face de vous s'étouffe, avale de travers? Connaissez-vous la manœuvre d'Emlich? D'ailleurs, est-ce que les gestes de premier secours sont les mêmes si la victime est un adulte ou un enfant? On va faire le point, mais avant ça, écoutons ce que vous en pensez dans le micro-trottoir de Valentin Piovesan.
L'étouffement, pour moi, c'est une fausse route, une fausse voie, en fait.
On sent un objet qui vous empêche de respirer normalement, de faire circuler le flux d'air.
Il n'y a rien à dire, on comprend tout de suite ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ne peut plus respirer.
Je tapoterai sur le dos pour qu'il recrache.
Si ça peut aider, je pense que ça peut être la première chose à faire, ouais, c'est de taper entre les deux omoplates.
Alors, faut pas taper. Enfin, il faut taper d'une certaine manière pour faire aussi sortir la chose coincée.
Il y a la méthode de Emlich qui est connue pour l'évacuation d'un corps étranger, d'un voie respiratoire.
Je pense qu'il faut mettre les mains sur le ventre, aller derrière la personne, appuyer très fort, mais au risque de péter une côte, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire moi-même.
Donc on passe par l'arrière, on met un point fermé sur le centre du sternum, on referme la main sur le point et on serre en remontant vers le haut pour provoquer mécaniquement une expulsion d'air qui, on l'espère, va chasser le corps étranger dans les voies respiratoires.
Bon Jimmy, attention, on est dans urgence ici, mais on va pas paniquer là. On a notre urgentiste préféré avec nous, c'est vous bien sûr. L'avantage c'est là qu'on peut débriefer tranquillement. Hein, finalement, on dirait que je suis stressée là. On va parler d'étouffement.
Oui, grave,
vous avez vu, je m'étouffe moi-même. Alors en général, l'étouffement, ça arrive au cours d'un repas. Malheureusement, on va prendre le cas d'un adulte. D'abord, la première chose, je crois, c'est on passe aux claques. Hein.
Oui, vous l'avez bien dit, c'est souvent pendant le repas. Et ce qui va se passer, c'est que normalement, lorsque vous mangez, vous allez avaler et donc ça va passer dans l'œsophage. Et parfois, vous allez faire une fausse route parce que vous avez mangé trop vite, avalé un trop gros morceau. Et l'aliment va se coincer dans la trachée, dans les voies respiratoires. Et tout d'un coup, l'air ne passe plus. Comme l'air ne passe plus, il va se passer deux choses. Soit la personne en face de vous va se mettre à tousser. Elle va être gênée, mais il faut la laisser tranquille. On ne la touche pas, on l'encourage, puisque la toux, c'est un mécanisme de défense.
Rien qu'en toussant, on peut faire ressortir le truc.
Elle
hein.
va expulser tranquillement le petit aliment qui est coincé. Si par contre, elle ne produit aucun son, elle n'arrive plus à parler, qu'elle met ses mains au niveau de sa gorge, qu'elle a les yeux qui deviennent rouges, les lèvres qui deviennent bleues, et bien dans ces cas-là...
Quand il n'y a aucun son, là, urgence.
Exactement. Et là, ouais. on se met à mettre 5 grandes tapes dans le dos.
La main ouverte,
avec le plat de la main, entre les deux omoplates, et que le patient qui est un peu penché en avant
pour
le faire
expulser. Et on y va bien fort ou pas?
On y va de bon cœur, il n'y a aucun risque de péter une côte, Au contraire, vous allez lui sauver la vie.
Alors malgré si on donne donc ces 5 bonnes claques dans le dos, si ça change rien, qu'est-ce qu'on fait là? C'est la manœuvre de Emlich, c'est
et
ça
oui, des compressions. En 1974 par le docteur Emlich, il est chirurgien thoracique et il était dans une maison de retraite et il a vu un des résidents manger un hamburger. Mais oui, il a mangé un hamburger et il a fait une fausse route. Et du coup, le docteur Emlich, il a créé cette technique, en fait finalement assez intuitive. Il s'est mis derrière le patient, il l'a enlacé avec ses deux mains et puis avec son poing fermé. Il l'appuie au niveau, juste en dessous du sternum, au niveau de l'estomac. Et il se met à faire 5 grandes compressions en venant appuyer avec son autre main pour augmenter la pression intrathoracique pour faire expulser ce petit morceau.
Et là, ça fait bouchon de champagne.
5 fois, et pof, 5 fois en avant, et ça marche. Si jamais ce n'est pas possible, car le patient est obèse, vous pouvez le mettre sur une table. Ça paraît tout bête, mais ça peut sauver une vie.
Oui.
Vous l'allongez sur la table, la tête penchée en avant avec le torse un peu en avant, et vous mettez 5 grandes claques dans le dos. Ça marche aussi quand la personne est inconsciente.
Par contre, on ne fait pas ça, Emlich, les compressions abdominales, si la personne... Il y a du son, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a deux différences. Il y a l'étouffement où il n'y a plus de bruit, et l'étouffement où il y a du bruit. S'il y a du son, surtout on ne fait pas
si
ça, parce qu'il risque de s'étouffer encore plus grave.
Exactement. Hein, ouais. Et on laisse tranquille, on laisse tousser, et surtout, on appelle les secours.
Pour un bébé, on fait ça pareil? Est-ce que si ça arrive à un nourrisson qui avale de travers, on fait la même chose? Les claques dans le dos, ouais.
Exactement. À partir de 1 ou 2 ans, vous pouvez le mettre sur l'avant-bras ou sur votre jambe, le ventre contre la cuisse, et vous mettez d'abord 5 grandes tapes. Ça va permettre d'expulser le petit objet. Et puis, même chose, on peut retourner l'enfant et faire des petites compressions pour expulser l'aliment coincé.
Le petit bouchon de champagne. Jimmy, rapidement, tout ça, c'est bien de le faire en fait une fois. Et le mieux, c'est d'aller faire une formation.
Exactement, formation, ouais. Croix-Rouge Wire, ce qu'on appelle ça la formation PSC1. En 10 heures, c'est réglé, c'est une simple formation. Et vous en souvenez pour tout le restant de votre vie.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions qui peuvent s'avérer malheureusement plus qu'utiles. On peut tous être amenés un jour à sauver une vie.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, la sexo, l'amour, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures pour parler de tout cela. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint comme tous les jours à la fin de cette émission. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et Catherine, cet après-midi, on a cette question de Maud. Elle nous écrit « J'ai 36 ans et vis avec ma copine depuis 4 ans. Sa famille m'accepte, mais ma famille, elle, me rejette. Le peu de fois où nous nous voyons, il y a des tensions. Est-ce que je dois rester en contact avec mes parents ?» Une grande question ici, hein. Catherine, quand même, vous avez un gros conseil à donner.
Et il va sans dire que
très important.
Quelques minutes sur cette question
ne suffiront pas, évidemment.
Pas,
mais on va essayer de voir un petit peu avec vous quand même. On imagine les parents de Maud, donc ils la rejettent du fait de son homosexualité, c'est ce qu'on a compris dans cette question. Pourquoi est-ce qu'ils la rejettent comme ça? Enfin, on le sait, ça existe, hein, ce type de réaction, mais c'est leur fille, c'est peut-être pas la... Quand ça arrive, quelle est la raison principale? C'est pas la petite fille qu'ils avaient projetée, quoi, c'est ça?
Oui, d'ailleurs, si c'est l'homosexualité qui en est à l'origine aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est noué ailleurs sans doute. Et évidemment que pour les parents, l'erreur est de penser que nous fabriquons des mini-nous. Or, on fabrique des êtres qui vont grandir et se construire avec ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a donné, ce qu'on a sécurisé ou pas d'ailleurs, parce que nous avons aussi notre responsabilité dans les choix que vont pouvoir opérer nos propres enfants. Et puis après, il y a leur vie, leurs accidents de parcours, leurs rencontres, leurs découvertes, leurs richesses. Et évidemment que c'est un autre être que nous mettons au monde et que nous avons mis au monde. Et donc, évidemment, un parent peut avoir le sentiment d'être remis en question parce que l'idéalisation de son enfant n'est pas devant lui et du coup, avoir du mal à créer du lien avec cet enfant qu'il ne comprend pas parce que ça échappe complètement à sa propre pensée et l'homosexualité peut en faire partie.
Je trouve ça complètement fou quand même, 4 ans de rejet. Je ne dis pas qu'au début, la réaction peut parfois être un peu difficile, mais là, 4 ans de rejet de son propre enfant, c'est compliqué, moi, je trouve, à comprendre.
Oui, et c'est compliqué. C'est extrêmement cruel pour l'enfant, mais de toute façon, il faut savoir que le parent se fait du mal aussi. Il aura beau dire qu'il s'en fout, qu'il ne veut pas le voir, ou etc. La réalité, c'est que c'est d'abord un jugement de ce que l'on a fait soi-même, avant d'être le jugement réel de l'autre, objectivement de l'autre. Donc c'est extrêmement triste, bien sûr. Les deux parties sont susceptibles d'en souffrir. Ce qui est heureux, c'est que pour Maud, eh bien, elle a une famille qui l'accueille les bras ouverts.
Une autre famille
qui accueille les bras ouverts, avec évidemment le fait de savoir que ce ne sont pas ses parents à elle et que c'est son amie qui a des parents qu'elle pourrait juger formidables. Et c'est sans doute aussi ce qui a fait son élan d'amour, c'est de sentir qu'il y avait un environnement paisible et accueillant qui a fait cette valeur relationnelle.
Alors vous dites que les parents de Maud doivent certainement eux aussi de leur côté souffrir, mais du coup, est-ce qu'il faut rejeter les personnes qui nous rejettent ou essayer de faire un pas vers eux? Peut-être que le dialogue est totalement rompu depuis 4 ans, c'est enkysté dans une situation qui a peut-être évolué avec le temps. Mais chacun n'a pas osé faire un pas vers l'autre ?
Ah oui, l'orgueil, si vous saviez, Jimmy, combien l'orgueil stigmatise les situations et les gens s'enferment dans des situations qui deviennent de plus en plus sans issue, parce que personne ne se permet de dire « je ne suis pas d'accord sur ça, 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 mais je t'aime ». Ou « je ne suis pas d'accord sur ça, ça, ça et ça, tu me fais du mal cruellement sur ça, ça, ça et ça, mais tu me manques et j'ai besoin de toi et je voudrais créer du lien avec toi ». Mais comme si dire ça, c'était déjà faire un aveu de faiblesse et donner le pouvoir à l'autre d'un arbitrage cruel plus encore. Et donc du coup, tout le monde reste sur son compte à soi. Et quant à certains sujets, si le sujet c'est l'homosexualité, il y a des parents qui sont complètement tétanisés à l'idée d'aborder le sujet. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien et ils ne savent pas comment le verbaliser. Et donc du coup, c'est l'enfant qui devrait verbaliser les choses. Souvent d'ailleurs, l'enfant à ce moment-là, qui est devenu grand, hein, peut être très provocateur, c'est-à-dire mettre encore plus en évidence une homosexualité, par exemple, ce qui, évidemment, ne fait que provoquer la difficulté, la gêne éventuellement des parents.
Mais là, donc, c'est la question, est-ce que je dois rester en contact avec eux ? C'est que quand même, semble-t-il, ça lui pose problème, elle a envie. Enfin, si elle nous pose la question, j'imagine, c'est qu'elle vous demande mais comment faire, Catherine ?
Il n'y a pas de devoir, ce n'est pas parce qu'on a des parents qu'on est dans le devoir d'un lien avec eux. La question ne doit pas se poser par rapport à ça, mais par rapport au besoin que j'ai malgré tout de savoir que je ne suis pas un petit pois dans une boîte de petits pois, mais je suis bien issue d'une famille avec ses complexités, ses difficultés. Et est-ce que je peux arriver à garder un type de lien, défaut d'avoir trouvé, elle aussi, un lien idéalisé avec ses parents. Et donc, si c'est trop douloureux, je crois qu'il faut savoir mettre de la distance parce qu'on n'est pas l'esclave de sa posture d'enfant vis-à-vis de nos parents. Donc, on n'a pas lieu de subir toutes les cruautés, si cruauté il y a. Maintenant, s'il y a des points gérables, on peut apprendre aussi à ne pas venir titiller, mettre de l'huile sur le feu sur les sujets qui sont compliqués, pour au moins trouver les petits espaces de relations, même s'ils sont assez pauvres, puisque comme elle l'a fait avec ses beaux-parents, et qu'elle le fera avec des tas de gens qu'elle rencontrera dans le monde professionnel, dans le monde de sa vie au quotidien, il y aura des tas d'autres référentiels et d'autres gens accueillants, aimants et rassurants quant à ce qu'elle est.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Comme chaque Bonjour, jour Mélanie. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, trois personnages, Stéphane, trois personnages a priori très distants dans le temps, dans leur hobby. Et puis finalement, ils ont un point commun. Ils sont verts, les écolos avant l'heure.
Ah mais on va apprendre des choses incroyables dans cette émission. Karl Marx
Karl Marx.
Oui, il est rouge, mais il était vert aussi.
Ah oui.
Oui, souvent ça va ensemble. Et alors, il était vert, un des pionniers de l'écologie. Et puis Louis de Funès, eh ben il cultivait son jardin, il adorait pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, rien.
Et savez-vous d'où vient l'expression, vous qui faites ça dans l'émission les fins mots de l'histoire, d'où vient l'expression être vert de rage? L'incroyable Hulk. Je vous en parlerai tout à l'heure, même si c'est pas de là que ça vient.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Et vous qui nous écoutez, bien surtout, continuez. Restez sur Europe 1.